Chapitre 3. Jadis, le hameau du Bout du Croc, perdu au fin fond du parc naturel régional des Vosges du Nord, avait abrité 89 âmes. On y avait fabriqué le pain et travaillé le bois. L'endroit était un cul-de-sac. On y entrait et sortait par une unique route qui slalomait à travers une forêt dense et sauvage et permettait d'atteindre une petite ville plantée à 15 kilomètres de là. Au cœur du hameau, quelle que fût la direction où l'on regardait, on ne distinguait que des arbres à perte de vue, ce qui donnait la sensation vertigineuse d'être l'un des derniers habitants de la Terre. Quelques années après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, cette zone reculée, abritant une population vieillissante, s'était progressivement dépeuplée, livrant les bâtisses aux morsures du temps. Aujourd'hui, seules subsistaient des ruines qu'une association, Zéro Onde, financée en majorité par le Conseil régional du Grand Est, avait entrepris de réhabiliter. Emmitouflé dans son épaisse écharpe en laine, sa chapka kaki enfoncée jusqu'aux oreilles, Vera Cléthorne rejoignait la base que les membres de l'association, dont elle faisait partie, avaient aménagée dans ce qui avait autrefois tenu lieu de boulangerie. Des ouvriers avaient confectionné une toiture temporaire, faite de planches et de bâches en plastique, et reconstruit les murs entourant l'ancien four. Il faisait aussi froid dedans que dehors, mais au moins, on était au sec et protégé du vent. Là, on avait installé un point de ravitaillement en eau potable, ainsi qu'une cuve pleine de fioul, offrant ainsi la possibilité à chacun de boire, de se laver, d'alimenter son générateur d'électricité ou de se chauffer. La jeune femme ôta ses gants marrons avec ses dents, plaça son jerrycan de 10 litres sous le robinet de la cuve et, accroupie sur le béton, fit couler le carburant. Son regard fut alors attiré par une surbrillance, légèrement sur sa droite. Des emballages de chips et de biscuits traînaient au sol, entre les traces de neige fondue laissées par des semelles. Il y avait aussi 3 mouchoirs usagés, roulés en boule, ainsi qu'une bouteille d'eau vide. Au milieu des déchets, elle ramassa un livre. Il s'agissait d'un roman, La fille venue de l'ombre, d'une romancière dont elle n'avait jamais entendu parler, Sophie Henrichs. La couverture, sombre, représentait un visage féminin fissuré comme de la faïence ancienne, au crâne éclaté en pièces de puzzle, avec des yeux bleus qui semblaient de verre, des lèvres de pierre et des cheveux blonds. Elle retourna l'ouvrage pour en lire le résumé. Une histoire d'enfermement, un face-à-face entre un bourreau et sa victime kidnappée. Le jerrycan était presque plein. Vera frotta le livre pour en chasser l'eau et la boue, le glissa sous sa doudoune et coupa l'arrivée de carburant. Elle ignorait à qui appartenait ce bouquin et ce que ses détritus faisaient là, mais elle se réjouissait d'avoir de la lecture, en espérant que l'histoire en vaudrait le coup. La piqûre d'un vent glacial la cueillit lorsqu'elle se risqua à mettre de nouveau le nez dehors. Son haleine forma des nuages de buée quand, alourdie par sa réserve de fioul, elle remonta la route, ses après-skis s'enfonçant à moitié dans une neige cassante. Des centaines d'empreintes de pas s'éparpillaient dans diverses directions et disparaissaient dans la forêt noire comme la nuit. Les vestiges de visiteurs venus se réapprovisionner en combustible, comme elle. Depuis que les jours avaient raccourci, elle croisait de moins en moins les autres naufragés. Les sorties se limitaient au strict minimum, chacun restant enfermé dans ses quelques mètres carrés et se débrouillant pour survivre du mieux possible à ses mois les plus rigoureux de l'année. Avant de regagner le sentier, elle longea les murs en reconstruction du hameau, les échafaudages, les palettes de matériaux bâchés, puis se dirigea vers sa voiture garée non loin. Elle la débarrassa de l'épaisse couche de flocons dont elle était couverte, versa un bouchon de fioul sur la serrure de la portière pour la dégivrer, puis s'installa au volant. Le véhicule démarra au premier essai. Elle fit tourner le moteur 10 bonnes minutes, comme à son habitude. Sa Ford était le bien le plus précieux qui lui restait de son ancienne vie. Sans elle, il était inenvisageable de se rendre en ville et d'y faire ses achats de première nécessité, à moins d'avoir le courage de se farcir 30 bornes à pied aller-retour ou de demander de l'aide aux autres, ce qu'elle préférait éviter. Elle les savait ouverts et solidaires, mais elle ne voulait rien leur devoir. Chacun avait ses propres problèmes à régler. Dans l'habitacle, assise au creux du siège baquet, elle profita de la ventilation pour se réchauffer les mains. Coup d'œil dans le rétroviseur. Son visage long était fatigué, son nez irrité goûtait en permanence, et ses cheveux blonds, qui tombaient désormais sur ses épaules, auraient mérité une petite égalisation. Elle refusait de se laisser aller davantage. Demain, elle irait se les faire couper. Elle soupira. Dans cet endroit, seule sa respiration brisait le fantastique silence, ce vide abyssal qui finissait par lui taper sur les nerfs. À travers le pare-brise, elle distinguait des colonnes de fumée s'élevant au-delà des cimes. Les autres. 34 personnes occupaient des caravanes, des fourgons ou des algécos autour du hameau abandonné. Des hyper-électrosensibles, ou HES, comme elle. Des individus dont l'organisme ne tolérait plus les ondes hyper-fréquences liées au Wi-Fi ou encore au téléphone portable. Les symptômes étaient terribles. Acouphènes permanents, psoriasis à répétition, impossibilité de trouver le sommeil, mais surtout migraines abominables qu'aucun médicament ni traitement ne parvenait à apaiser. Certains d'entre eux, avant de s'échouer dans ce no man's land, avaient tenté d'isoler leur ancienne habitation avec des composés spéciaux ou de porter un casque intégral fabriqué avec une résine censée protéger le cerveau des rayonnements invisibles. Ils avaient tout essayé, pourvu que les martèlements cessent. Mais aucun de ces subterfuges ne fonctionnait. De toutes les études menées par l'OMS sur l'hyper-électrosensibilité, nul n'avait permis de mettre les ondes en cause. Il n'existait pas de thérapie, quasiment pas de recherche, et même se réfugier dans les rares zones blanches de France ne résolvait pas le problème. Le gouvernement ayant décrété le 0ZB, des antennes relais s'élevaient jusqu'aux endroits les plus reculés du pays, et les réseaux satellitaires grignotaient chaque mètre carré de territoire jusque-là épargné. Un enfer pour ces laissés pour compte, à bout de force et sans solution, qu'on appelait les naufragés des ondes. Heureusement, une poignée d'organisations et d'associations se battaient pour eux, dont celle-ci, Zéro Onde, qui s'était donné comme objectif de réhabiliter le hameau situé dans un désert électromagnétique, grâce au relief et à l'absence totale d'activité humaine à moins de 15 km à la ronde, et d'en faire, sur le long terme, un éco-village viable pour une centaine de HES. Il était même prévu de développer une économie autour de chambres d'hôtes vertes, pour des vacanciers stressés et décidés, l'espace de quelques jours, à se couper de toute forme de communication avec le reste du monde. Vera faisait partie des petites mains qui, du début du printemps à la moitié de l'automne, aidaient les ouvriers à la reconstruction, contre un toit temporaire et une rémunération. Un semblant de vie sociale et professionnelle qui durait le temps des beaux jours. Mais l'hiver, la vie du chantier retombait au point mort, comme aspirée par les ténèbres, et les HES, d'anciens cadres, instituteurs, banquiers à la vie familiale détruite, se terraient dans leurs habitats sommaires parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. La forêt était leur espace de liberté, et la plus effroyable des prisons.